Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. On va la faire deux pour trouver l'équilibre. Bon, ça va mieux comme ça? C'est un plaisir de me retrouver avec vous, quoique je me sente en même temps dans mes petits souliers. Mais comme je le disais à Jean-Claude, lorsqu'on s'est parlé, je pense que c'est important d'accepter aussi les occasions de partager. Aujourd'hui, je parle, mais un jour, ce sera aussi à vous. Chacun, on est invité à parler de la parole, un peu comme dans la lettre de Saint-Pierre, quand il dit « Sachez, quand on vous le demande, rendre compte de la foi qui est en vous. » Mais en même temps, on sent qu'on est toujours un peu fragile parce que on rend compte d'une réalité qui nous est proposée, qui nous est donnée, que l'on essaye d'accepter, d'en faire le choix, mais avec toutes nos fragilités. Pour aujourd'hui, donc, à qui irions-nous le mystère de l'Eucharistie, un choix à faire? Et pour nourrir cette réflexion, le comité organisateur de Foi et Partage avait retenu le texte de l'Évangile de Jean, chapitre 6, 51 à 71. Je vais lire la première partie de cette parole de Dieu. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Mais voyons, comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point part, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui de vos pères, celui qu'ils ont mangé, comme cette manne qu'ils ont mangé et ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain que je suis vivra éternellement. » C'est plein de mystères, c'est plein d'éléments dans ce texte-là. Comme on dirait, si on accepte de l'écouter, à quelque part, ça dérange les méninges un tout petit peu, même beaucoup. En fait, le texte de la parole qui appuie notre réflexion dans cet évangile de Jean, nous présente donc Jésus qui discute avec ses disciples d'un choix libre et personnel que chacun est appelé à faire s'il veut devenir disciple de Jésus et s'il veut être disciple. C'est évidemment là une question majeure encore aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, surtout au 21e siècle, d'être disciple de Jésus, et qu'est-ce que cela implique? Il n'y a pas si longtemps, quand on était plus jeune, on peut dire ça entre nous, il y a des jeunes ici, mais ceux qui sont les plus âgés, il n'y a pas si longtemps, dire la question « qu'est-ce que ça signifie être disciple de Jésus? » c'est probablement une question qui aurait été rapidement mise de côté, car on était dans un contexte de chrétienté. Et on savait tous que pour être disciple de Jésus, finalement, il suffisait de suivre les commandements de Dieu issus de l'Église, ce qui est toujours valable, remarquez. Sauf qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui sont vraiment obsédés par l'idée de suivre les commandements de Dieu et de l'Église. Concrètement, je dirais au 20e siècle, cela se faisait en pratiquant la religion, en étant assidu au sacrement et en écoutant nos parents et nos prêtres de paroisse. À l'époque, on avait une pratique religieuse qui était au-delà de 80-85%. Et il y avait peu de place pour les écarts de conduite et pour les remises en question au niveau de la signification même de ces pratiques. Si on manquait à ces pratiques, non seulement on risquait d'être mis en marge de l'Église, surtout si on n'avait pas de raison valable, mais on était aussi mis au banc de la société dans laquelle on vivait. Mais je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, on sait tous, cette conformité apparente, extérieure, est disparue de nos milieux. Michel Cantin, qui est déjà venu donner la parole et que vous connaissez, vient de publier un dernier ouvrage qu'il a intitulé, ça tombe bien, « Être disciple de Jésus de Nazareth aujourd'hui ». Il consacre plusieurs pages pour décrire les signes des temps que l'on peut reconnaître aujourd'hui, des signes des temps qui viennent remettre complètement en question c'est quoi prétendre être disciple de Jésus. Il va parler de manière d'envisager le mal, d'envisager la mort. Il va parler des discours que l'on avait jadis lorsqu'on voulait parler des enfants morts sans le baptême. Il va soulever toute la question comment on présentait le péché originel. Bon, il y a mille et une façons, mais aujourd'hui, quelqu'un qui va parler comme ça, c'est quelqu'un qui va complètement être mis de côté parce qu'à quelque part, ça ne tient pas la route. Ce n'est plus quelque chose qu'on est prêt à entendre aujourd'hui. Et on veut tellement pas l'entendre que aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui sont intéressées à être ce genre de disciples de Jésus. Il y a très peu de gens qui vont fréquenter aussi la communauté ecclésiale de manière assidue. Quand on prend en compte donc la multiplicité des problèmes qui ont été mis à jour depuis la seconde moitié du 20e siècle, on est guère surpris de constater la mise à distance que bien des personnes ont choisi de faire par rapport à l'Église. On était disciple à la limite de naissance, mais dès que le choix se pose, est-ce que je veux être disciple ou pas, le choix, c'est « je ne veux plus être ce genre de disciple ou ce genre de croyant ». La baisse de la pratique religieuse ne fait plus scandale de nos jours. On a même l'impression que c'est le contraire qui est à la mode. Quelqu'un qui s'affiche comme pratiquant, il fait souvent scandale. J'en reviens pas, ça vous arrive autant que moi, encore dernièrement, il y a même pas une semaine ou deux, d'un groupe où j'étais, quelqu'un dit « mais as-tu la foi, toi? » J'ai eu le moment de dire « oui hein? ». Je me souviens qu'un jour, un professeur de l'université avec qui je travaillais m'a dit « mais je comprends pas comment un gars intelligent comme toi peut avoir la foi. » Moi, j'ai dit « ça c'est facile, je comprends pas qu'un gars intelligent comme toi puisse ne pas l'avoir. » Bon. Si on discute comme ça, on va pas loin, mais au moins, ça fait plaisir. On veut pas se laisser écœurer. Ceci étant dit, souvent, quand il est question de religion, les personnes donc vont s'empresser de dire « Oh, moi, je ne suis pas croyant » ou « Moi, je ne pratique pas ». On entend ça régulièrement, les journalistes, à la télévision, partout. La religion par obligation a disparu de nos milieux, et même plus, on se méfie presque spontanément, donc, des personnes qui vont s'afficher comme des disciples de Jésus. Il faut bien reconnaître qu'il y a là, dans cette attitude, une réaction vive qui a été provoquée, et on doit le reconnaître, par les scandales qui sont survenus dans l'Église. Un scandale a toujours comme effet de provoquer une mise à distance, un discrédit sur l'institution où a eu lieu ce scandale. On a vu encore plus la semaine dernière tout ce qui est passé au niveau de les grandes déclarations, les enquêtes qu'on fait sur la pédophilie, sur toutes les... Évidemment, c'est une réalité qui dérange énormément. Jésus était bien conscient que dans une institution où il y a des humains, il y a pratiquement toujours de bons et de mauvais sujets, de bons et de mauvais disciples. On n'a qu'à penser à la parabole du bon grain et de l'ivraie. Les serviteurs du maître proposent d'aller arracher tout de suite l'ivraie pour que le bon grain puisse pousser sans problème. Mais le maître leur dit de ne pas faire cela, de peur d'arracher le bon grain en même temps que l'ivraie. Il leur dit que ce départage sera fait au temps de la moisson et que le maître va avoir à séparer à ce moment-là le bon grain de l'ivraie. C'est toujours fascinant, merveilleux même, quand on prend le temps d'écouter ces choses-là, mais c'est fascinant de voir la pédagogie de Jésus. C'est-à-dire de voir comment il s'y prend pour amener les gens à se dépasser un peu et à comprendre le projet de Dieu, son Père. Il est toujours très patient et très respectueux. Respectueux de la volonté profonde des personnes. Au jeune homme riche, si tu veux aller plus loin, tu peux faire ça. Si tu veux, va. Si tu veux, marche. Si tu veux, viens, suis-moi. Si tu veux, viens voir où couche le Fils de l'homme. Il est patient et il est respectueux. Il veut des gens libres, des gens capables de choisir. Jésus ne veut pas de disciples qui ne font que le suivre à l'aveuglette, mais bien des disciples qui choisissent d'être avec lui, dans une relation d'amour et de confiance, pour réaliser un royaume d'amour, pour bâtir une demeure à l'image d'un Dieu d'amour, une demeure qui est proposée à toute personne humaine et qui concerne toute personne. Je propose, en pensant à cette pédagogie de Dieu, cette pédagogie qu'on a à découvrir, mais une pédagogie pour nous, qu'on prenne un temps d'arrêt, qu'on chante ensemble un de nos chants méditatifs. On peut se lever peut-être. Dans le récit de Jean que nous avons lu au chapitre 6, on a donc une vraie discussion. Mais la discussion, ce n'est pas tant sur ce que signifie de manière abstraite être disciple de Jésus, mais sur ce qui vient de manière bien concrète nourrir la personne qui veut être disciple de Jésus. On a une expression qui dit, on a travaillé ça pendant l'année sur l'Eucharistie, qui dit qu'on devient ce qu'on mange. Et puis actuellement, quand on voit tous les mouvements de végétarisme, végétariens, puis ça déborde. Mais on insiste beaucoup, on est de plus en plus conscient de cette réalité, on devient ce qu'on mange. On est façonné par la nourriture que l'on absorbe. On peut avoir n'importe quel discours, ce n'est pas tant ce qu'on dit qui nous fait croître que ce que l'on absorbe. J'avais un ami médecin, tout ça, qui parlait et qui disait aux gens l'importance de faire attention à leur santé, entre autres, et de ne pas fumer. Mais lui qui fumait quand même, bon. Mais ce dont ce qu'il a apporté, s'il était malade, c'était un cancer, évidemment, provoqué par ça. Mais on devient ce qu'on mange à quelque part. Il y a là une réalité bien concrète. On dit aussi, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On sait combien nos fréquentations sont importantes pour notre croissance personnelle. Nous sommes des êtres vivants, incarnés dans le temps et dans l'espace, et tout ce que nous côtoyons et absorbons a des effets sur nous et en nous. La parole qu'on vient de lire, c'est intéressant quand on la relit en étant très attentif à cette idée, nous devenons ce que nous mangeons. Et on se réalise que il s'agit pas là d'un idéal abstrait, mais c'est une manière d'être au monde. On est des êtres incarnés. Quand Jésus dit « Je suis le pain vivant, descendu du ciel », si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Il nous ramène, je reste sur le plancher très concret, de ce que l'on choisit pour nous sustenter, pour nous nourrir. De quoi on se nourrit? Comment Jésus peut-il donner sa chair à manger? Il dit, en vérité, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Peut-être qu'on avait travaillé ça un petit peu avec le groupe de prière l'autre jour, mais quand on regarde la manière dont une mère et un père de famille sort avec leur enfant, on a peut-être là l'exemple le plus près de ce que c'est que de dire donner sa chair pour son enfant, donner sa vie, donner son sang. Un parent, je dirais, sauf ses limites normales, mais un parent va être illimité pour l'amour de son enfant. Parce qu'en même temps, il est conscient, l'enfant, lui, va grandir. Il va grandir en étant nourri par toute cette affection. Quand j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années, entre autres, auprès d'enfants profondément marqués par des problèmes d'ordre affectif, on avait un psychiatre qui travaillait avec nous et qui avait dit, vous savez, la manière dont on nourrit un enfant, la nourriture matérielle va venir nourrir le corps, mais la manière même dont la maman va nourrir le bébé, c'est ce qui nourrit l'affectif. Autrement dit, tout l'amour de la maman passe à travers le lait qui nourrit le corps, et en nourrissant le corps, vient nourrir l'affectif de la personne, l'affectif de l'enfant. On est des êtres comme ça. On distingue des choses parce qu'on voit les choses d'une par une, mais en même temps, on vit dans une globalité. On vit d'une manière, je dirais, globale. Mais quand on en parle par morceaux. Je dirais, un peu comme ceci, quand Jésus dit, « Je suis venu, c'est ma chair, c'est mon sang qui vous est donné pour vous nourrir. » Ce qu'il nous dit en faisant ça, c'est pas qu'on est des cannibales, loin de là. C'est-à-dire que lui, il est un, il est uni, et il veut nous nourrir dans notre entièreté. Et ça passe à travers ce qu'on voit, ce qu'on touche, ce qu'on sent, ce qu'on goûte. Et à travers tout ça, à travers ce corps à corps, c'est l'esprit qui vient vivifier et qui anime. C'est l'esprit d'amour de la mère nourrissante qui va nourrir l'amour de l'enfant. C'est cet esprit de confiance et de foi en son enfant qui va éveiller chez l'enfant un être de confiance, un être de foi. Être disciple, ce n'est pas d'abord un rapport de causalité. Ça, il y a là un aspect, je crois que c'est peut-être l'élément qui m'a fait le plus réfléchir en, en préparant aujourd'hui notre rencontre. Être disciple, ce n'est pas d'abord un rapport de causalité. Je suis disciple parce que c'est d'abord un rapport de relation. Je suis disciple avec quelqu'un. Je suis disciple parce que je suis juif. Je ne suis, à la limite, est-ce que je suis disciple parce que je suis juif, parce que je vais au temple, parce que je vais à l'église, parce que je respecte la loi? Le disciple dont il est question ici, quand on parle, il est disciple de Krishna, il est disciple, il a les pratiques de... Si j'en suis uniquement au niveau des pratiques, c'est un disciple qui est, on appelle ça un adepte. C'est celui qui opte de faire comme l'autre dit. Mais ce dont nous parle Jésus, lui, c'est un disciple qui se nourrit du régime que propose Jésus. On pourrait dire qu'être disciple, c'est d'abord une manière d'être qui est conséquente de ce que dont je me nourris, de ce que j'accueille en moi. Être disciple, c'est comme une conséquence, c'est comme un fruit, le fruit d'une relation de sujet à sujet. C'est moi qui suis en relation avec toi, Jésus. C'est ma relation à toi, la qualité de cette relation, la vérité de cette relation qui me fait être disciple. Cette relation est d'abord une interpellation. C'est d'abord Jésus qui m'appelle. C'est Jésus qui vient à moi. C'est Jésus qui attend de moi une réponse, une décision, un choix. Seigneur, est-ce que je sais entendre ton appel? Est-ce que je suis disponible, ouvert, pour t'accueillir et mettre en toi ma confiance? Le thème retenu par Foi et Partage, donc pour la rencontre de cette année, disciples de Jésus, nous invite donc à porter notre attention et notre réflexion, non pas tant sur ce qu'on doit faire que sur qui on est comme disciple. Qui est cette personne qui se dit disciple de Jésus? Qui est cette personne et qu'est-ce qui l'anime en vérité? Qu'est-ce qui la fait vivre vraiment et qu'est-ce qui lui permet de grandir en tant que sujet humain? On parle immanquablement ici, donc, encore une fois, de ce qui nourrit cette personne, de ce que Jésus propose comme nourriture vitale, son corps et son sang. J'ai eu à travailler il y a quelque temps sur une thèse de doctorat. Une jeune religieuse, il y en a encore des jeunes religieuses, qui est une sœur missionnaire adoratrice, qui s'appelle sœur Nathalie Roberge. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et puis, sœur Nathalie a fait une thèse de doctorat sur une bonne femme québécoise qui est née à Québec, à Limoilou, en 1911, et qui a fondé la communauté, donc, des dominicaines missionnaires adoratrices. Cette femme, dans la vie, s'appelait Julienne Dallaire, et en religion, elle a pris comme nom Sœur Julienne du Rosaire. Alors, je vous en parlerai un tout petit peu. Pour Sœur Julienne, et ça, la thèse, une thèse qui fait 437 pages, une thèse, qui vont probablement être publiés en partie. Et je pense que sœur Nathalie Roberge, je ne sais pas si vous la connaissez ici, mais ça serait une personne qui pourrait prendre la parole et avoir des choses fort intéressantes à vous dire. C'est qu'à un moment donné, c'est intéressant d'avoir du monde en banque. Mais sœur Nathalie, elle a fait d'ailleurs une thèse qui a eu la cote maximum au niveau de son évaluation à l'université. Alors, sœur Nathalie dit que pour sœur Julienne, l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'union est un sacrement qui fait les saints. Et c'est sur quoi elle va insister, c'est de dire comment tout être humain, nous sommes tous des êtres désirés de Dieu, voulus de Dieu, et que tout être humain est appelé à être saint. Être saint, ça veut dire être parfait dans l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire être quelqu'un qui est si irréprochable que tout le monde doit admirer et que je crois qu'il y a une guerre, c'est pas ça. Mais être saint, c'est saint dans l'amour de Dieu. On est appelé à cette union. Elle écrit, Sœur Gélienne, c'est dans l'acte d'amour du Christ perpétuel autel qu'on reçoit la sainteté à sa source, qu'on boit la sainteté. Julienne parle aussi de manger la sainteté. Quand on nourrit, quand on vient à la communion, quand on est pris dans un mouvement de sainteté. Dans une conférence en 1959, Sœur Gélienne disait « L'effet propre de la communion, c'est la transformation de l'homme en Jésus-Christ par l'amour, c'est-à-dire c'est la sainteté. Manger Jésus, c'est devenir Jésus, donc entrer dans la sainteté. Celui qui me mange demeure en moi et moi en lui. Le Christ nous l'a bien fait remarquer. C'est une demeure qui s'établit. Il ne vient pas seulement en passant parmi les hommes, mais il vient pour rester chez nous. » Et ça, c'est merveilleux quand on regarde l'histoire des saints, entre autres, que ce soit, je pense ici au Québec, évidemment, je vais dire un petit mot de Marie de l'Incarnation, mais quand on parle de Marie de l'Incarnation, qui a fondé les Ursulines de Québec, dans l'histoire de sa vie, à l'âge de 33 ans, elle a une révélation pendant sa prière, et dans sa révélation, elle entend le Seigneur qui lui dit « C'est le Canada que je te fais voir, je veux que tu ailles y bâtir une maison à Marie et à Joseph. » On est dans cette idée de bâtir une maison, bâtir un lieu où habiter, un lieu où demeurer. Et cette maison est d'abord la maison qui se bâtit à l'intérieur de chacun, de chaque personne. Ce qui demeure en soi, c'est une demeure pour vivre et une demeure de Dieu. Merci, oui, merci bien. Donc, c'est une demeure où Dieu habite, une demeure en soi, une demeure de Dieu en chacun. Pour tenter de décrire la réalité de la sainteté qui se réalise dans le cœur des baptisés par la communion eucharistique, Julienne reprend le concept donc de la demeure qui est très présent dans tout le quatrième évangile. Dans plusieurs entretiens, elle convoque aussi la parole de Paul aux Galates, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Cette perspective est lourde de conséquences au plan spirituel. Être un disciple de Jésus ne signifie pas précisément l'imiter, faire une imitation du dehors, comme on copie un modèle, mais c'est entrer dans sa demeure et faire entrer la demeure en soi et ne faire qu'un avec lui. Et elle a des expressions extraordinaires. L'idée de la demeure va se retrouver dans ces mots comme pénétrer dans le cœur du Christ, se plonger dans le cœur du Christ, s'enfoncer dans le cœur du Christ, glisser dans le cœur du Christ, se perdre dans le cœur du Christ. C'est dans son cœur filial qu'il nous faut vivre notre vie d'enfant de Dieu. Voilà donc un enjeu important de la vocation d'être disciple. Est-ce que j'entends bien ce qui m'est proposé? Et est-ce que je suis disponible non seulement à me laisser séduire et guider par le Seigneur, mais à me laisser nourrir par lui, à le laisser m'alimenter dans mon cœur, dans mon esprit? En qui et sur qui repose ma volonté et mon amour? Cela implique un choix et un choix dans l'ordre de la confiance, dans l'ordre de la foi. Ça va-tu?
Oui.
Un des éléments qui m'a frappé aussi toujours un petit peu autour de Sœur Julienne, c'est, je travaillais sur le texte, je regardais dans le chapitre 6 où Jésus nous parle de ce pain, qu'il est le pain, qu'il est le vin, qu'il est la nourriture pour notre vie. Et ce texte arrive comme un approfondissement pour expliciter ce qu'il y a deux chapitres avant. Qu'est-ce qu'il y a au chapitre 4 dans Saint Jean? C'est la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et puis là, bien évidemment, l'idée de la Samaritaine, quand Jésus dit, si tu savais celui à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire parce que tu n'aurais plus à revenir boire, ta soif serait étanchée. Là aussi, il y a quelque chose d'assez merveilleux, mais puis dans la pédagogie de Jésus, un peu comme il dit, si vous mangez mon corps et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle, l'eau que je te donnerai ferait que tu n'auras plus jamais soif. Alors, en me promenant, j'ai retrouvé un petit texte écrit par Sœur Julienne qui raconte un petit peu, elle, la première fois qu'elle a relu ce texte de la Samaritaine et sa manière de comprendre ce que ça pouvait vouloir dire, ce que Jésus dit à la Samaritaine. Je vais vous lire ça un petit peu. Vous êtes d'accord? Donc, c'est Sœur Julienne. Elle parle, évidemment, quand elle écrit ça, c'est autour de des années 1973, donc elle a au-delà de 60 ans, 70 ans, mais elle raconte une expérience profonde qu'elle avait déjà travaillée quand elle était toute petite, vers 11-12 ans. Alors, elle écrit ceci, vers l'âge de 12 ans, j'ai appris l'évangile de la Samaritaine. Jésus dit à la Samaritaine, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Écoutez ça. « Mais l'heure vient, et c'est maintenant. » Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Et elle continue en disant, « Cette parole m'a frappé. Mon Père du ciel cherche des adorateurs. J'y revenais dans mes visites au Saint-Sacrement. J'y revenais au moment de l'action de grâce. C'est comme si j'avais percé le cœur du Christ, son désir de donner au Père des adorateurs pour adorer le Père, et son désir qu'on l'aide, lui, le Christ, à chercher des adorateurs. » Là, les choses se déplacent, là. Qui étaient ces adorateurs que le Père cherche? Finalement, j'en suis venu à voir que le Christ, c'est l'adorateur avec un grand A, et que les adorateurs en esprit et en vérité étaient ceux qui adoraient avec lui. Là, il y a quelque chose d'assez grave. Les adorateurs, c'est pas ceux simplement qui vont se mettre à genoux et qui adorent Jésus. Mais c'est ceux qui, à genoux, avec Jésus, adore le Père. Je deviens non plus un adorateur de l'hostie, si je peux dire, mais là, c'est un moyen, mais qui m'invite à devenir un adorateur du Père, un adorateur avec Jésus. Ceux qui adoraient avec lui, ceux qui pénétraient son cœur, ceux qui pénétraient ses sentiments face à son Père, voilà les adorateurs que le Père cherche. Quand on essaie d'adorer par soi-même, de s'imaginer par soi-même le bon Dieu, sa grandeur, sa bonté, sa miséricorde, Sœur Julienne dit, on ne comprend rien encore. Mais le Christ est Dieu, il comprend tout. Il sait lui qui est Dieu. Donc, ses adorations sont parfaites. Et lui peut nous apprendre à adorer. Donc, j'ai appris qu'il y a deux façons d'adorer. Et les deux sont importantes, là. Mais l'une sans l'autre, il peut y avoir un problème. Donc, on adore le Christ présent au Saint-Sacrement. À ce moment-là, la louange s'adresse surtout à notre Seigneur. On s'adresse au Seigneur. Mais j'ai vu aussi que les adorateurs en esprit et en vérité que demande le Christ, ce sont des âmes qui se livrent totalement à son mouvement d'adoration, qui entre dans son cœur, dans l'intime de son cœur, de ses propres sentiments, et qui va se perdre dans son adoration du Père. Nous sommes donc invités à découvrir que c'est aussi dans ce double sens, il me semble, que l'on peut comprendre ce que Jésus cherche à faire découvrir à ses disciples. Jésus, Dieu, cherche des vrais disciples. Il s'agit d'une révélation qui vient déranger nos manières de penser et qui est une demande pour une adhésion et pour un choix. Je vous propose qu'on arrête un petit peu, qu'on chante pour approfondir ces deux approches. Dans le texte qui nourrit notre réflexion aujourd'hui, il y a une seconde partie que je vais vous lire rapidement. Jésus dit ces choses, et plusieurs disciples, après l'avoir entendu, dirent : cette parole est dure, qui peut l'écouter ? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient ceux qui le livreraient. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, « ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et pourtant l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. C'est une parole qui est troublante, toute cette parole est troublante. Nous avons été choisis par Dieu le premier, et c'est lui qui a pris cette initiative. Et il nous laisse la liberté de choisir notre réponse. Cette pédagogie de Dieu est déconcertante et inévitable. Elle est déconcertante car bien souvent, on aimerait ne pas avoir à faire des choix. C'est exigeant de faire des choix et de les respecter. C'est exigeant la fidélité, surtout au moment des épreuves et des confrontations. Notre nature humaine est prompte, notre patience est fragile, notre confiance est souvent mise à l'épreuve quand on n'a pas les résultats qu'on attend rapidement. On est dans une société du prêt-à-porter, tout doit aller vite. On aime être les responsables de notre destin et on n'aime pas avoir d'entraves. Dans une société comme la nôtre, les puissances de la chair et de la satisfaction immédiate sont très puissantes. Or, qu'est-ce qui peut vivifier notre vie, lui donner un sens qui déborde la satisfaction immédiate? C'est l'esprit qui vivifie. L'esprit, c'est ce qui anime en profondeur. C'est ce qui donne un sens au-delà des apparences. C'est ce qui nourrit l'espérance, la charité et la foi. C'est ce choix d'entrer dans l'esprit même de Jésus ou de laisser l'esprit de Jésus entrer en nous qui nous est proposé. J'aimerais conclure avec un petit extrait de ce qu'a écrit Michel Quentin à la page 123, où il va nous parler au fond de ce qu'est peut-être le choix d'être disciple aujourd'hui. Si nous avons choisi d'être disciples de Jésus de Nazareth, nous devons nous rappeler ces paroles. C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. On a aussi à se rappeler cette parole. Jésus leur dit cette parabole, le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à une grande quantité de farine, si bien que toute la pâte lève. Le sel et le levain représentent une très petite quantité par rapport au mets principal ou à la pâte. Dans notre monde, Raymond Truchot me dit attention, quand Jésus dit « si vous êtes le sel de la terre, soyez le sel de la terre », mais il dit « s'il y a du sel partout, ça va tout brûler ». Donc, des fois, on a l'impression de ne pas être nombreux, mais peut-être qu'il faut dire ben, « l'important, c'est de ne pas oublier d'être le sel, le levain, et c'est l'esprit qui agit ». Le sel donne du goût, le levain fait lever la pâte. La mission que Dieu nous confie, donner du goût à la vie en vivant les valeurs évangéliques et élever les standards de vie citoyenne par les mêmes moyens. Il faut se questionner sur l'invitation à être missionnaire aujourd'hui, à être missionnaire, à être disciple. On a de la difficulté à préciser le comment. Il ne saurait s'agir pour être missionnaire de simplement embrigader le plus de monde possible. Notre préoccupation doit être autre, demeurer du sel et du levain, avoir le goût de Jésus en nous nourrissant de la vie, du pain, du sang, du corps de Jésus. Si, inspirés par l'Évangile, nous trouvons un sens à notre vie et respirons le bonheur de l'Évangile, le reste suivra par contagion, comme cela s'est passé dans les premiers siècles après la mort et la résurrection de Jésus. La façon dont le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain au tout début peut nous inspirer encore aujourd'hui. Les chrétiens formaient des petits groupes et c'est par l'entraide, leur souci des plus démunis, leur solidarité que les premiers chrétiens ont conquis progressivement l'admiration de leurs contemporains. Il s'agit de former de petites communautés de disciples qui ont cette préoccupation. Le pape François nous parle de retrouver la joie de l'Évangile.